lundi, à 17h35, retrouvez-moi sur Altitude FM en compagnie de Lolo pour notre chronique Ma vie au zoo, une aventure au cœur du royaume animal. Jane was lovely,
she was a queen of my night. Bonjour Sylvie.
Bonjour Lolo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ma vie au zoo. Donc Sylvie, aujourd'hui tu vas nous parler de ton métier de vétérinaire au zoo. Donc j'avais une première question, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail au zoo de Plaisance du Touche African Safari, au quotidien bien sûr.
Au quotidien, alors déjà à signaler que vétérinaire de zoo, c'est un métier qui est hyper variable en fonction de la structure qui nous emploie. Il y a déjà une dichotomie assez importante, donc il y a des structures où le vétérinaire est principalement vétérinaire.
Donc, il ne fait que des soins.
Que des soins, etc., du diagnostic. C'est le cas dans les grandes structures ou dans les structures publiques, où il y a une fonction vraiment vétérinaire importante. Après, souvent, il est rattaché la gestion de ce qu'on appelle la collection du zoo, c'est-à-dire des animaux au sein de la structure. C'est-à-dire qu'on est obligé de tous les enregistrer, on est obligé de signaler tous leurs déplacements. Tout est enregistré, tout est enregistré dans une base de données commune qui s'appelle ZIMS. Et il y a tout un tas de registres officiels à gérer aussi. Donc il y a un côté administratif souvent qui accompagne le métier de vétérinaire. Après, en plus de ces fonctions, fonctions des structures, on peut avoir le rôle de chef-soigneur aussi. On peut aussi participer à la pédagogie. Également, gérer le côté conservation dont nous avons parlé dans des précédentes émissions, c'est-à-dire trouver des projets de conservation à défendre. Éventuellement mettre en place des élevages conservatoires aussi au sein de nos structures. Donc voilà, les rôles peuvent être très très variés. Moi par exemple, quand j'ai commencé, j'étais vétérinaire, chef-soigneur, je m'occupais de la pédagogie, de la collection. Enfin, j'étais un peu multitâche et au fur et à mesure, ces rôles changent au sens où maintenant j'ai quelqu'un de super qui gère toute la pédagogie, donc Sarah, qui a déjà parlé dans cette émission. Donc elle gère tout ce qui est pédagogie. Et très bien. Et depuis un an, j'ai un chef-soigneur. Donc mon métier a évolué. En conséquence, mes fonctions ont évolué et le temps qui m'est imparti pour gérer le côté conservation est beaucoup plus important. Élevage conservatoire également, sachant qu'en plus au zoo, on a un gros projet d'agrandissement du zoo, de refonte du zoo, qui prend aussi pas mal de temps. Donc voilà, mes rôles ont évolué au cours du temps. Je garde toujours la balance soins aux animaux, bien sûr. Mais après, tout ce qui est autre fonction évolue beaucoup. Je suis même actuellement en train de travailler sur un outil numérique qu'on développe avec une entreprise privée pour évaluer le bien-être des animaux dans les parcs zoologiques en France.
Voilà, qui fera l'objet d'un autre numéro de Ma vie aux zoos.
Donc voilà, mon métier, pour dire ce que je fais au jour le jour, c'est très compliqué. Par exemple, hier, j'ai eu une réunion pour établir le contrat avec la personne avec qui on va faire développer l'outil numérique. Donc, ça m'a pris 1h30. J'ai géré des transferts d'animaux, des papiers, de l'administratif. Enfin, c'est hyper, hyper variable. Je n'ai pas une journée qui ressemble à une autre, globalement.
Tu sembles avoir quand même pas mal de fonctions et d'obligations dans ton métier de vétérinaire. Est-ce qu'au niveau administratif, c'est de plus en plus conséquent, c'est de plus en plus lourd ?
Alors, au niveau administratif, oui, c'est au niveau d'un parc zoologique, on a beaucoup d'obligations à remplir. Donc, c'est assez lourd. Après, récemment, j'ai arrêté le côté papier, par exemple. Donc, on utilisait des registres papier. Et donc, les autorités reconnaissent l'outil informatique qu'on utilise, la base de données internationale qu'on utilise tous en parc zoologique. Donc, sous réserve qu'on envoie des rapports tous les 3 mois, des animaux qui rentrent, qui sortent, il faut qu'ils aient, bien sûr, un droit de regard sur tout ça, puis il faut que je leur envoie tout ça. Donc ça, c'est un petit peu allégé. Mais globalement, non, c'est assez lourd, oui. Surtout qu'on est un parc zoologique, on est à la fois une structure ouverte au public.
D'autres réglementations en plus.
Et également une ICPE, une installation classée pour l'environnement. C'est-à-dire que notre activité a un impact sur l'environnement. Il faut que l'on justifie de toutes nos actions, que toutes nos actions ne nuisent en aucun cas à la biodiversité locale, à l'environnement, etc. Donc voilà, ça fait partie de... Donc à chaque fois que je modifie, qu'on demande une modification d'enclos au service de la DDPP, hein, on est obligé de signaler tous les changements, il faut faire un dossier en ce sens. Donc bon, maintenant on est habitué, mais toute modification fait l'objet d'un dossier à rédiger.
D'accord, donc c'est quand même énorme au niveau...
Oui, c'est quand même assez
au niveau réglementation.
Et c'est normal, c'est... Hein, il faut que tout soit cadré, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est... Mais ça représente un travail quand même qui est assez important. Ouais.
Donc c'est une activité très réglementée. Est-ce que tu pourrais me dire quels sont les défis spécifiques que tu peux rencontrer en soignant des animaux exotiques et, ou sauvages ?
Alors, des défis spécifiques. Alors ça va être hyper variable en fonction des espèces. Bon, c'est-à-dire que je soigne de la perruche à l'éléphant, donc les défis ne seront pas les mêmes avec les uns et les autres. Là où il faut, nous, qu'on fasse attention, c'est de ne pas être blessé, ou qu'il n'y ait pas une des personnes qui nous aide soit blessée également. Et il faut intervenir en stressant le moins possible pour l'animal. Donc je dirais que les deux défis, c'est ça. Du stress pour personne, quoi. Bon, alors c'est possible, parfois c'est pas possible. On est obligé, certaines espèces, de les attraper avec une épuisette. Bon, on fait en sorte que les manipulations durent le moins longtemps possible. Et après, avec les espèces qui sont plus grosses, voire trop grosses, on est obligé de mettre en place, ou on est amené à mettre en place des entraînements avec les animaux, beaucoup. Donc c'est le cas, ça peut être le cas, on le fait actuellement avec les guépards par exemple, avec les tapirs, avec les éléphants. C'est-à-dire qu'en faisant des exercices au quotidien avec les animaux, ils sont habitués à ce qu'on les touche, à ce qu'on les examine, à ce qu'on fasse une prise de sang.
Lever la patte,
etc., à donner le pied. Ce qui fait que si un jour il y a une intervention à effectuer, ils sont habitués à tout ça, donc ils ne sont pas en stress. Donc bon, les éléphants, ça nous sert vraiment beaucoup pour l'entretien des pieds, pour les prises de sang, effectivement, pour le suivi des gestations, des grossesses. Et les guépards aussi, ça permet d'avoir une proximité et une habitude de prise. Par exemple, il y a récemment, donc on a fait partir nos 4 mâles guépards et on a reçu 2 guépards de Peaugres. On travaille dans le sud de la France, entre Peaugres, Montpellier et nous. On gère les guépards comme si on avait un seul groupe. Ça a été approuvé par le plan d'élevage européen. Donc, on s'échange les animaux. Il faut savoir que les guépards, il ne faut pas qu'ils se voient trop longtemps, mâles et femelles, sinon ils ne se reproduisent pas. Donc on est obligé de faire tourner les individus pour stimuler la reproduction.
D'accord.
Donc ce qui s'est passé, donc, on avait 4 mâles, 4 frères. Donc quand on les mettait avec Poppy, notre femelle, le problème c'est qu'ils étaient plus intéressés par être avec leur frère qu'à être avec la femelle, donc ils ne se reproduisaient pas. Donc on les a fait partir à Montpellier pour repro, pour changer d'environnement, pour qu'ils voient d'autres femelles. Et on a fait venir 2 autres individus de Peaugres. Mais ces 4 mâles, nos 4 mâles, ils sont montés dans les caisses de transport tout seuls. Je n'ai pas eu à les anesthésier. Ils avaient été entraînés par les soigneurs à rentrer tous les jours dans la caisse, à sortir, à rentrer, sortir. Puis ils rentraient, on fermait. Bon, ça a été, pour le quatrième, ça a été un petit peu plus long, puisque forcément, il avait vu les 3 autres partir.
Oui,
il s'est dit, mais ils sont où ?
Tiens, ils mourront pas, moi.
C'est ça, puis ils les entendaient miauler dehors, là. Mais voilà, ça a été un peu plus long, mais ça s'est très bien passé. Donc on évite une anesthésie qui passe en conséquence. Un stress pour le vétérinaire qui anesthésie, pour les soigneurs également, le stress du réveil, etc. Et les animaux quand même, qui bon, une anesthésie, c'est jamais anodin. Parce que ce que peut apporter les entraînements, ce que peuvent apporter les entraînements médicaux, les entraînements tout court.
Et pourquoi avoir déplacé les 4 frères ? Pourquoi ne pas en avoir gardé 2 et en récupérer 2 ?
Alors le risque quand on partage une fratrie, c'est qu'on ne puisse plus la refaire. Ils sont très soudés. Vraiment, ce sont des unités et ça peut occasionner un gros stress pour eux. Alors, c'est vrai qu'à l'âge adulte, souvent, dans leur milieu d'origine, ils finissent par se séparer. Pas forcément, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que la femelle est solitaire chez les guépards. Mm-hmm. Donc, elle croise juste les mâles, se reproduit, puis après, elle ne les voit plus. Donc, les fratries restent unies. Donc, on essaye au maximum de conserver ces liens qui sont quand même forts et de séparer une fratrie en deux. Ça peut être stressant pour les individus et on peut ne pas pouvoir les remettre ensemble. L'objectif du transfert, c'est que les mâles vont revenir, les 4 mâles vont revenir au printemps prochain, quand ils seront reproduits, et quand le mâle qu'on a accueilli se sera reproduit. Et le mâle repartira à Peaugres, et la femelle qu'on a reçue, qui n'est plus reproductrice, partira dans une autre structure.
Donc ça, c'est pour les animaux qui sont facilement déplaçables, oui. Voilà, qui sont imposants, mais sans plus. Et par exemple, si tu devais faire la même chose pour un hippopotame, ou un rhinocéros, ou un éléphant, je suppose que là, ce sont des démarches plus importantes, c'est plus compliqué.
Alors, on a eu plusieurs cas. On a eu un hippopotame à charger. Alors, lui, pareil, un jeune. On l'avait habitué à rentrer dans une caisse de transport. Mm-hmm. Donc, le jour du... Alors, c'était pas la même caisse le jour du chargement, mais il est rentré. On a réussi à le faire rentrer. Il avait été habitué avec des pommes. Souvent, la pomme nous est salutaire pour les grands herbivores. Hein. Ils aiment tout ça, la pomme ou la banane. Et donc, on a eu le même... on n'a pas fait de transfert de rhino, en tout cas pas quand j'étais là. Et les éléphants, c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est l'équipe de soigneurs qui est vraiment centrale dans l'organisation des transferts d'éléphants, parce qu'il faut les entraîner. Donc, il faut savoir que l'objectif final, c'est d'avoir un éléphant qui rentre en marche arrière dans une caisse et on tire sur les pattes arrière avec des treuils. Donc, il faut qu'il y ait des chaînes à la base des pattes postérieures On met le treuil, on branche les chaînes dessus, et après on tire l'éléphant petit à petit dans le camion. Donc pour arriver à cette position, il y a tout un travail fait en amont. Donc nous, on avait fait partir Pembe, notre mâle éléphant, donc il y a un an et demi, en Hongrie. Donc les soigneurs l'avaient entraîné pendant plusieurs mois en amont pour l'habituer à avoir les chaînes aux pieds. Donc il lui mettait tous les jours. D'abord, on fait sentir la chaîne, après on la pose sur la patte. Et il était habitué à ce qu'on lui mette des chaînes aux deux pattes arrière tous les jours, et au niveau d'un antérieur aussi, et à rentrer dans le couloir en marche arrière. Après, sur ce principe-là, on espère que tout va bien se passer.
C'est du dressage, en quelque sorte.
Alors, dans le mot dressage, il y a un côté contraint, mais l'animal prend plaisir, en fait. Il y a pas, de toute façon, on ne peut pas forcer un éléphant s'il ne veut pas.
Oui, il peut toujours tirer sur la chaîne.
Non, quand ils ne veulent pas, de toute façon, ils ne viennent pas. Donc, c'est pareil avec les otaries. Quand elles ne veulent pas, de toute façon, elles ne viennent pas. Parfois, c'est un peu compliqué à gérer pour les soigneurs, mais bon, on s'adapte. Et donc, par contre, là, au niveau des éléphants, il y avait une phase de tranquillisation, justement, pour que l'éléphant soit quand même assez calme au moment de... Donc, on les tranquillise en position debout, par contre. Donc, le but, c'est on envoie une flèche, on flèche, par contre, l'animal, on le rassure. Après, avant qu'il s'endorme, il faut le faire arriver à l'entrée de la caisse bien positionné. Là, il se tranquillise, il s'endort. Enfin, il s'endort debout, hein, il est tranquillisé. On branche les chaînes et on le met dans la caisse. Et après, on lui fait l'antidote pour qu'il soit en pleine forme pour le départ. Après, voilà, dans la pratique, c'est parfois un peu plus compliqué. Bon, nous, on y était arrivés assez bien, mais il s'était un peu trop endormi, un peu trop tôt, on va dire. Donc, il a fallu mettre les chaînes, mettre des cordes, tirer. Enfin, bon, ça a été un peu plus... Mais globalement, ça s'est très bien passé. Mais sans ce travail en amont, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là, il faut aller mettre les chaînes sur un animal tranquillisé qui ne dort pas, sur un éléphant. Ça peut être dangereux, c'est très dangereux.
Et dans ce cas-là, vous êtes combien de personnes il y a toi, évidemment, en tant que vétérinaire, il y a le soigneur, et il y a d'autres personnes. Je suppose que vous êtes plusieurs pour justement sécuriser cette opération.
Moins on est, mieux c'est.
Ah oui.
Ouais, parce que plus il y a de personnes, moins tu contrôles ce que fait chacun. Donc là, il faut les soigneurs, effectivement, moi. Donc là, il y avait le veto aussi, qui est un autre veto hongrois qui est très bien. Et il y avait aussi le transporteur, parce que souvent, ce sont des transporteurs qui ont l'habitude de transporter ce genre de...
Ils sont spécialisés.
Parce qu'au niveau prise de risque, ils ont vraiment l'habitude. Donc, ils sont habitués. Là, la personne en question, elle avait déplacé 40 éléphants avant. Donc,
oui, parce que de Plaisance-du-Touche à la Hongrie, c'est quand même pas rien.
C'est pas à côté. Après, la difficulté, c'est de le faire entrer dans le camion. Après, de toute façon, ils ne dorment pas, ils partent vigiles. Après, ils arrivent sur place sans trop de problèmes. C'est surtout cette phase de chargement qui est délicate. On ne le fait pas avec n'importe quel transporteur, on ne le fait pas, voilà.
Oui, tout est bien étudié, bien préparé, on imagine. Oui,
parce que l'accident est très vite arrivé.
Une autre question, comment tu gères les cas d'urgence avec des animaux souvent imposants ou dangereux ?
En général, je dois les tranquilliser, c'est souvent le cas. Donc ça dépend de l'urgence. Alors si c'est une plaie, par exemple, alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'urgence. Si c'est une plaie, des animaux qui sont bagarrés, en général, j'interviens pas. Donc, on donne des traitements par voie orale, beaucoup. C'est le moins traumatisant. S'il y a nécessité d'injecter un produit, un antibiotique, parce que l'animal vit dans un groupe et qu'on ne sait pas qu'il va manger le soir, vraiment précisément, on ne peut pas lui donner une ration. Donc là, je vais être amenée à flécher, donc j'utilise le fusil hypodermique. Pareil pour les animaux dangereux. Si je dois opérer en urgence, etc., j'anesthésie. Oui, on ne prend pas de risque, on ne peut pas faire autrement de toute façon.
D'accord. Tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'opération que tu as dû faire en urgence sur un animal assez imposant ou dangereux, justement ?
J'avais eu un Watusi qui était tombé à l'époque dans l'enclos des rhinos.
Donc un Watusi, c'est une vache,
en fait, avec des grandes cornes, et qui s'était fait éventrer par le rhinocéros.
Ah.
Donc là, oui, j'avais été, pour une intervention vraiment d'urgence, oui. Là, j'étais intervenue dans l'enclos, j'avais anesthésié, j'avais suturé. Ouais. Après, il n'y en a pas énormément d'interventions vraiment d'urgence. Il y a des phases où il faut qu'on soit là, et c'est pas mal, oui, après, parfois de conflits, mais c'est pas... Ou alors des mises bas. Si, les mises bas, il peut y avoir... j'interviens le moins possible, parce que déjà, je suis un élément stressant pour les femelles qui mettent bas, puisque j'attrape leurs petits quand ils naissent. Donc, elles m'identifient généralement à quelqu'un qu'elles ne souhaitent pas voir quand elles mettent bas.
La vilaine.
Je ne suis pas aimée. Quand il y a des problèmes de mises bas, que le petit se présente mal, là, je peux être amenée aussi en urgence à intervenir, et à ce moment-là, j'anesthésie aussi.
D'accord. Quels sont les équipements spécifiques que tu utilises pour diagnostiquer et traiter les animaux ?
Alors, pour les traiter, j'utilise l'outil indispensable pour un vétérinaire d'eau, c'est le fusil hypodermique ou la sarbacane pour injecter à distance, en fait. On n'a pas trop le choix. Et après, pour les diagnostics, alors c'est assez variable. Alors moi, je suis pas équipée en échographie, en radiologie. Mm-hmm. Donc je fais venir des collègues. Donc j'ai notamment une amie qui est vétérinaire équin, qui est une radio portative de très haute qualité et qui vient quand j'ai des radios à faire. Et de même pour l'échographie, j'ai des collègues qui viennent de l'extérieur.
Oui, parce que on en reparlera dans une autre émission, mais c'est vrai que le parc zoologique, c'est pas juste garder des animaux, non, les nourrir, les soigner. Il y a aussi, comme tu parlais, la conservation,
voilà. La pédagogie,
l'éducation, la sensibilisation. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Mais écoute Sylvie, merci de nous avoir parlé de ton beau métier et puis à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Vous pouvez retrouver notre chronique sur les réseaux sociaux d'Altitude FM et sur le site altitudefm.net ou venir nous voir au zoo African Safari à Plaisance-du-Touche. À bientôt !